Radio G 101.5 FM.
Bienvenue à Solidaire Monde, l'émission proposée par le collectif Solidaire Monde, qui donne la parole aux acteurs de la solidarité sous toutes ses formes, ici et ailleurs, un jeudi sur deux, de 19h à 19h30, sur Radio G 101.5 FM. Aujourd'hui, nous accueillons Geneviève Bénard et Juan Barrenechea, membres de l'association Habitat Différent, qui vont nous parler de ce qu'on appelle l'habitat participatif, à travers leur expérience d'usager de ce type d'habitat. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir.
Bonsoir Juan.
Bonsoir.
Cela fait longtemps que des citoyens ont choisi d'habiter et de vivre autrement, en s'engageant dans une démarche moins individualiste, pourrait-on dire, plus collective, sans pour autant rentrer dans une communauté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par habitat participatif? Comment définiriez-vous ce concept, Geneviève?
Eh bien, tu as déjà mis certains mots sur cette définition, puisque dans l'habitat participatif, cohabitent l'individuel et le collectif de manière très présente. Et c'est un lieu, en fait, je définirais de lieu de partage, lieu où on lutte contre l'isolement. C'est un lieu de solidarité, d'entraide, de convivialité, un lieu où on fait attention à ses voisins. Voilà, c'est ce que dirait peut-être mon voisin.
On va rappeler sur ces définitions-là tout à l'heure, mais vous avez dit les mots importants déjà, qui caractérisent ce type d'habitat. Quoi. Mmh.
En fait, je pense qu'il s'agit surtout dans le concept de revenir à un esprit du village, comme c'était avant. Et qui a disparu dans nos sociétés. Voilà, c'est un peu revenir à cet esprit-là.
D'accord. Et c'est intéressant dans la mesure où vous êtes en ville.
Hein,
et donc créer cet esprit-là en ville, ce n'est pas toujours facile, mais c'est sûrement très significatif.
Tout à fait.
Bien, alors donc, vous vivez tous les deux dans un habitat participatif de 17 logements, je crois, situé côte de Bellevue à Angers, donc dans le quartier du Lac de Maine. Alors, quel a été le projet initial qui a suscité la réalisation de cet ensemble? Quels en ont été les acteurs principaux et sur quoi finalement a-t-il débouché? Je crois que toute l'histoire a commencé vers 80-83.
C'est ça.
Alors, pourriez-vous nous raconter un petit peu comment ça s'est mis en place progressivement et le résultat?
Et le résultat. Eh bien, ça a démarré par deux groupes qui ne se connaissaient pas, qui de chacun de leur côté réfléchissait à une autre manière d'habiter, plus travailler sur la qualité du logement, l'habitat, un habitat de qualité, avec des amis et dans l'habitat social. Le deuxième groupe, dont je faisais partie, a davantage travaillé sur justement ces aspects collectifs, le vivre ensemble. Et donc, à un moment donné, on s'est retrouvés par le biais d'un partenaire local, qui, je crois, était l'agence d'urbanisme la région angevine, voilà. Et donc, qui nous a mis en contact. Et du coup, on est tombé d'accord sur nos recherches personnelles, nos objectifs. Et donc, on a créé une association en 83. Et là, ça a été vraiment le début de l'aventure. L'aventure, on a d'abord exploré, on a visité des projets sur la région et hors région même. Et puis, c'est là aussi où on s'est dit, surtout pas de communauté, parce que ce qu'on avait visité souvent était plus communautaire. Et nous, on se disait, pour bien vivre longtemps, durer dans le temps, il vaut mieux préserver l'intimité et vivre du collectif. Mais pas la communauté.
Alors, l'origine... Il fallait conjuguer ces deux données-là, ces deux éléments
impératifs.
Principaux.
Oui, c'est ça. Alors, je voudrais quand même signaler une originalité qui finalement, on est peut-être la seule expérience à avoir vécu ça, c'est qu'on est un groupe de citoyens qui a décidé, conçu, imaginé son lieu de vie, qu'il a conçu et qui a recherché un bailleur qui voulait bien partir dans l'aventure et réaliser ce que nous avions conçu.
En plus, je pense que c'est un type d'habitat social. Hein,
c'est de l'habitat social, complètement. Au départ, nous étions locataires du Toit Angevin, pour le citer, à ce moment-là.
D'accord. Et alors, après, ça a évolué. Au départ, vous étiez tous jeunes, j'imagine.
Mais oui. Alors, ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est qu'on s'est mis d'accord sur un point très important. On voulait être acteur de notre logement et montrer aussi que, bien que locataire de l'habitat social, eh bien, on pouvait participer à imaginer, concevoir son lieu de vie et être vraiment partie prenante. Donc ça, c'était un point fort. Et puis, il y avait cette philosophie que tu as déjà signalé, c'était vivre ensemble chacun chez soi, donc voilà, préserver l'intimité et du collectif, et puis développer la réflexion, pérenniser et promouvoir ce type d'habitat. Donc je vais répondre à ta question, puisque tu me dis que nous étions des trentenaires, effectivement, des jeunes, à ce moment-là, un groupe de jeunes, avec des enfants. Et...
Qui avait un projet, quoi, il y avait un projet voilà. Commun.
Projet commun.
Et ce projet s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, tout en évoluant. Alors justement, je pense que pendant ces 25 ans hein, que dure l'aventure, là, elle se poursuit toujours. Il a fallu s'appuyer quand même sur quelque chose de solide pour que ça se maintienne. Alors quelles sont ces valeurs, tu as fait un peu allusion tout à l'heure, mais quelles sont ces valeurs sur lesquelles s'appuie l'expérience? Quelles qualités doivent développer les habitants pour maintenir cet esprit-là? Parce qu'on peut imaginer que cela peut être toujours facile, non? Alors, Juan, vous pouvez nous parler de ça?
Oui. Des valeurs que j'essayais de regrouper, pour moi, c'est une envie de partager quelque chose, déjà. On n'y va pas dans un logement pour y habiter seulement. C'est habiter avec d'autres. Déjà, on fait une démarche particulière en allant habiter dans ce genre de lieux. Ensuite, et bien sûr, apprendre ce qu'est la tolérance, le respect de chacun, de son intimité, et participer dans les activités collectives qui sont de tous les jours.
Et, oui, de tous les jours, effectivement.
J'aimerais surtout faire attention, pour nous, c'est à niveau de nos valeurs, c'est la recherche du bien-être, évidemment. Je dirais même du bonheur. C'est pour nous important que ça soit bien présent. Peut-être une certaine capacité de continuer à rêver.
Bien sûr, on peut toujours rêver à une vie meilleure.
le dialogue, tu parlais du dialogue, qui est aussi, très important de la communication.
Alors, ces qualités pour maintenir l'esprit initial, pour nous, ça a été important de développer une certaine démocratie le plus directe possible, qui nous représente tous. Bien sûr, ça évolue au cours des années, mais ça reste toujours donner la parole aux habitants, que chacun participe, que chacun puisse s'exprimer. Donc, apprendre à écouter, c'est pas donné à tout le monde. C'est quelque chose qu'on s'apprend, on apprend tous les jours. Pour nous, c'est apprendre à écouter les autres.
C'est une école de démocratie.
Tout à fait. Oui, oui, si. On construit chaque jour. Et c'est aussi échanger avec les restes du quartier qui nous entoure. Et on fait partie de ce quartier. Et avec les écoles, la maison de quartier, exact. Pour nous c'est important.
Vous n'êtes pas replié sur vous-même, mais très ouvert sur le quartier dans lequel vous êtes situé.
Tout à fait, nous ne sommes pas fermés, au contraire. Si vous allez chez nous, nous n'avons aucune clôture, c'est pas fermé, n'importe qui peut rentrer.
C'est vrai, je l'ai fait. Bien, alors voilà donc des points importants qui expliquent bien finalement ce qu'est l'habitat participatif et l'esprit de cet habitat participatif. Alors, après ces informations très intéressantes, nous allons marquer une première pause musicale et je crois que nous allons entendre Juan...
On va écouter la chanson Volver de Carlos Gardel, interprétée par Gabriela Barrenechea.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el borolón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo encadenan mi soñar. Pero el viaje.
Alors, pendant tout ce temps, la situation n'est pas restée figée. Elle a évolué, notamment par le passage du statut de locataire à celui des propriétaires, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Car au départ, tout le monde était locataire. Alors, pourquoi ce changement, qui n'a peut-être pas été obligatoire malgré tout ? Alors, comment ça s'est passé ? Est-il possible de marier, si je puis dire, propriété individuelle du logement et propriété ou location collective des espaces communs ? Alors, quel est-il le rôle du bailleur dans l'opération, là, par exemple ? Vous pouvez un peu nous parler de ces changements ?
Alors, je veux bien en parler dans un premier temps. Juan complétera sans doute. Ce que je voudrais dire, c'est que nous étions tous très impliqués presque comme des propriétaires dans ce projet, dans cette expérience. Nous étions locataires. Pendant 10 ans, nous avons été tous locataires. Mais en fait, on a valorisé surtout les espaces verts, mais les locaux communs aussi. Comme si on était propriétaire, on a planté énormément d'arbres, on a fait des transformations.
Vous étiez chez vous.
Mais oui, on se sentait vraiment chez nous. Et c'est très beau, l'espace est vraiment très très beau. Et les locaux, on les a vraiment améliorés aussi, tous ces locaux communs. Donc voilà, ça allait presque de soi de passer du statut de locataire à propriétaire, on y pensait. Et de son côté, le bailleur, lui...
Il y pensait aussi ?
Il y pensait sans y penser, mais on était tellement impliqués, il le voyait, il le mesurait, puisqu'on se rencontrait tous les ans d'ailleurs. Et ça représente 17 logements, c'est très peu de choses dans son parc de logements, de son parc social. Donc finalement, on échangeait sur cette question de temps en temps. Et naturellement, on est arrivé à cette idée que oui, on pouvait... passer au statut de propriétaire et commencer à acheter. Mais ça a été, alors par contre, un très grand débat en interne. Pour nous, ce n'était pas évident, parce qu'il y avait les partisans de rester à tout prix locataire. On avait souhaité justement montrer comment on pouvait être acteur justement de son logement. Et puis tout d'un coup, il y avait cette idée. Et ceux qui étaient partisans de rester locataire craignaient que ça se fige, qu'en étant propriétaire, les logements se figent et qu'il n'y ait plus ce renouvellement et qu'on perde l'esprit. Et puis, il y avait ceux qui, au contraire, faisaient confiance en disant « mais il n'y a pas de raison, si certains achètent, et surtout dans les premiers habitants, dans les concepteurs, au contraire, ils peuvent être gardiens ou garants de cet esprit ». Donc, mais ça a été quand même très chaud hein, dans la discussion. Mmh. Et pour finir, on a pris quand même la décision. Et on est très heureux de l'avoir prise parce que ça se passe finalement très bien. Puisque finalement, on a tous, qu'on soit locataire ou propriétaire, on a tous le souci d'entretenir notre espace.
Autrement dit, posséder chacun son chez-soi et vivre ensemble, c'est tout à fait conciliable.
Je pense que, bon, même si la réflexion a été parfois forte et la discussion, et on peut, moi j'avais des craintes, je le reconnais bien, volontiers. Et pourtant, au vu des résultats, il faut avouer que la cohabitation entre les locataires et les propriétaires, elle est assez réussie. Il n'y a pas de différence entre dans la prise de décision et dans la participation, dans la motivation de chacun. Pour l'instant, ça se passe très bien.
Donc, être propriétaire ou locataire, si l'esprit, lui, perdure, subsiste, ça ne pose pas de problème.
Non, la preuve, c'est que Geneviève est donc propriétaire, une des premières à avoir accès à la propriété. Et moi, je suis toujours locataire. Je compte le rester pour l'instant.
Bien, alors donc si on revient maintenant au point de départ, un projet, une association, une réalisation, des habitants, tout ça, ça montre une très grande cohérence. Alors comment fonctionne l'association ? Habitat est différent. Pour maintenir cette cohérence et la cohésion sociale nécessaire, comment sont prises les décisions, par exemple, qui conditionnent ce type de vivre ensemble ? Comment s'effectue le renouvellement des habitants, etc. Vous pouvez nous parler de ça ?
Oui. Et pour parler de notre fonctionnement, il faut que je vous parle de notre association. Et l'association, elle s'appelle Pour un habitat différent. Souvent, on raccourcit, on parle d'habitat différent, mais c'est Pour un habitat différent. Donc, on fonctionne comme une association. On a un bureau qui est élu par Assemblée Générale chaque année. Et nous avons donc des réunions, des assemblées plénières mensuelles pour gérer notre quotidien. Et pour gérer éventuellement des conflits, et gérer nos projets, nombreux projets. Et nous fonctionnons par commission et on essaye d'appliquer une certaine horizontalité dans les rapports. C'est-à-dire que nous avons éliminé nos tables dans nos réunions, on s'assoit en cercle, on applique la non-violence comme concept, et pour que chacun puisse vraiment s'exprimer. Pour nous, la clé de voûte de toute cette dynamique est l'écoute, la communication. Pouvoir se dire les choses.
L'échange,
mais dans le respect, évidemment. Dans un groupe quelconque, il y a toujours des gens qui parlent moins, d'autres qui parlent beaucoup. Et nous, on essayons de faire attention justement pour que la plupart puissent s'exprimer correctement.
Et la plupart rentrent dans ce jeu d'échange, de communication, où certains sont un peu à l'écart.
Mais écoutez, ça varie. Ça fait 30 ans presque que ça dure. Et il y a des gens qui au début, c'était pas très impliqué, mais petit à petit, se sont impliqués. D'autres, au contraire, qui ont vu des séparations, des départs, et ils sont moins impliqués actuellement. Mais ça change tout le temps. Et ce qui est important, c'est que la dynamique continue à vivre et elle est très importante. Notre dynamique, je suis arrivé il y a 7 ans et j'étais happé par cette dynamique avec une force incroyable. Ça nous pousse à nous intégrer, à nous impliquer pas seulement passivement, mais activement.
Et bon, tout à l'heure, vous faisiez allusion au quartier dans lequel vous êtes. Alors, comment on vous perçoit justement dans le quartier ?
Alors dans le quartier, ça a aussi beaucoup bougé. Au départ, on nous regardait un peu comme des extraterrestres, j'allais dire. Il y avait beaucoup de fantasmes dans le quartier. On a entendu des choses particulières sur ce qui pouvait se vivre à l'intérieur de ces 17 maisons, dans cet ensemble qui est quand même un jardin quand même assez préservé finalement interne. Et on était assez un peu froissés de cette perception. Mmh. Alors, bien sûr, on avait des amis, des gens qui nous connaissaient bien, qui avaient bien compris. Mais bon, voilà, ça suscitait un certain nombre de questionnements.
Alors, pour changer cette vision ?
Alors, on a, pour changer cette vision, d'ailleurs, on vivait dans le quartier. On s'est beaucoup impliqué dans la maison de quartier. Mmh. on a fait des portes ouvertes pour que les gens puissent venir constater ce qui s'y faisait. Et aujourd'hui, j'allais dire que cette image est complètement tombée. On est vraiment partie prenante de la vie du quartier.
Elle s'est fait aussi naturellement avec les écoles.
Les enfants aussi.
Oui, bien sûr, les enfants, c'est un véhicule incroyable.
Bon, eh bien écoutez, après cette importante information que vous nous avez donnée, là, je pense que nos auditeurs sauront bien ce que c'est qu'un habitat participatif, tel que vous l'avez défini, et ça pourra peut-être leur donner des idées, éventuellement quelque chose en place. Nous allons marquer maintenant une deuxième pause musicale et nous allons écouter...
Eh bien, nous allons écouter de Goran Bregovic un morceau vraiment très beau que j'aime beaucoup, qu'il a composé pour le temps des gitans de Costa Rica.
Alors, pour vivre dans l'habitat participatif de la côte de Bellevue, à Angers, faut-il avoir l'esprit militant? Comment se considèrent ces habitants par rapport à la société en général? Des aventuriers du quotidien, des précurseurs? Alors, qu'est-ce que vous pensez?
Oui, je pense qu'ils font un minimum de militance et il y en a eu effectivement beaucoup dès le départ. Mais le terme d'aventurier du quotidien, c'est quelque chose qui a été écrit par deux sociologues qui ont fait un livre sur notre expérience. Et elle représente bien cette idée. On imagine au quotidien les modifications, on essaie de s'adapter et je crois que ça représente des habitants qui remettent en question finalement certains nombre de règles de vie en société sur lesquelles on n'est pas toujours en accord et donc on essaie de mettre en pratique d'autres choses vraiment au quotidien pour être en phase avec ces modifications, cette adaptation de cette vie en société qu'on aimerait voir apparaître. Et c'est vrai que ce qu'on a dit, cette bienveillance entre nous, cette solidarité...
Oui, ça suppose des rapports quand même tout à fait différents.
Voilà. Nécessite toujours cette communication dont on a parlé.
C'est pour nous très important qu'on arrive à communiquer fluidement. Et il y a évidemment des conflits entre nous. Il n'y a pas que des bonnes choses. On n'est pas différent aux autres. Et ça permet cette communication qui est importante d'entretenir et nous permet justement de que les choses soient dites et qu'éventuellement trouver les solutions qui s'imposent. Et ça nous a permis de sortir de pas mal de problèmes. Et c'est quelque chose qui est fragile, qu'il faut toujours entretenir chaque jour.
Mmh. Chaque jour, oui.
C'est vrai.
Alors, pour conclure, parlez-nous un petit peu de vous. Geneviève, vous êtes là depuis le début de l'aventure, hein, depuis 1983.
Hein.
Alors, pourquoi y êtes-vous restée ? Pas eu l'envie d'aller voir ailleurs, non ?
Eh bien, alors, j'y suis restée parce que je m'y sens bien. J'ai voulu aller ailleurs, mais ça ne s'est pas fait parce que je me sentais trop bien là et que j'ai eu envie d'y rester et que mes voisins, que j'aime beaucoup, finalement, m'ont dit « Mais pourquoi tu ne restes pas ? On peut réfléchir à la question et on peut voir ensemble comment adapter puisque, effectivement, j'y suis depuis le début, j'y vieillis, le logement, j'ai un étage, tout va bien pour l'instant, hein, mais il faut réfléchir. Et puis, l'espace vert est très grand et je craignais à un moment d'être peut-être petit à petit un poids mort pour l'association. Voilà, et donc...
Et non.
Je voudrais prendre la parole parce que je me souviens du cas quand on s'est présenté, celui de Geneviève, qui elle a dit qu'elle voulait partir parce qu'elle ne voulait pas être un poids mort. Or, je parlais au début de l'émission sur l'esprit du village. Dans les villages, nous, les gens s'occupaient de leurs anciens, ils les accompagnaient, ils ne quittaient pas le village parce qu'ils étaient plus actifs, parce qu'ils étaient moins performants. Non. Donc, à notre tour, nous, on va s'occuper donc de nos anciens et les accompagner, et quitte à faire des modifications importantes dans l'infrastructure du lieu pour qu'ils puissent continuer à être autonomes.
Alors, pensez-vous que votre expérience est reproductible ?
Bah oui, on l'espère. Une de nos principales critères, c'est justement de pouvoir diffuser cette forme de vie pour que d'autres s'en inspirent. Nous servons souvent des références parce qu'on est quand même une référence, ça fait 30 ans qu'on existe, et des gens qui sont très intéressés viennent souvent nous solliciter pour des interviews, des travaux, des thèses, des étudiants, de la presse aussi. Ça, souvent, on est sollicité. Et pour justement pouvoir...
Pour faire part de votre expérience, là.
Tout à fait.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'en l'état tel qu'on l'a vécu, ça n'est pas reproductible. On a eu beaucoup
Tel que.
Par contre, on fait partie d'un réseau d'habitat participatif et ça se développe énormément. Et donc, dans
sur
ce
Angers
sens,
aussi,
sur Angers aussi, il y en a d'autres et maintenant, ils s'en créent de plus en plus. Donc, on est satisfait, heureux de voir que ça prend forme.
Oui, ça veut dire que finalement, dans cette société, il y a des gens qui disent, qui pensent et qui veulent vivre d'une façon différente, en étant à la fois chez soi, mais aussi avec ce désir de rencontre de l'autre, qui facilite finalement la vie en commun, non ?
C'est un autre modèle de vie, de société.
Une petite utopie.
Voilà.
Il y a aussi la dimension financière qui est intéressante. On peut dire que nous avons une tondeuse, une belle tondeuse, hein, pour 17 habitations, et plutôt que chaque habitation ait sa tondeuse. Et nous, on s'appuie, on échange, on partage les espaces communs, ce qui nous permet justement d'être ensemble et dans de bonnes conditions.
Voilà, ben nous terminerons avec la tondeuse, hein, symbole en quelque sorte de votre vie en commun. En tout cas, merci Geneviève et merci Juan pour ce très intéressant témoignage sur l'habitat participatif qui continue d'attirer beaucoup de personnes, non seulement sur Angers, mais ailleurs aussi en France et dans le monde.
Merci à vous.
C'était Solidaire Monde, l'émission préparée par le collectif Solidairement. Merci de l'avoir écoutée. Vous pourrez la réécouter en podcast sur www.radio-g.fr. La prochaine émission aura lieu le jeudi 20 février de 19h à 19h30 sur Radio G 101.5 FM. Aujourd'hui, c'était Jacques à la technique et André à l'animation. À bientôt. Thank you.